candélabres garnis de bougies roses la flanquaient parallèlement. À droite, près d'un cartonnier, un homme dans un fauteuil lisait le journal en gardant son chapeau sur sa tête. Les murailles disparaissaient sous des estampes et des tableaux, gravures précieuses ou esquissées de maîtres contemporains, ornées de dédicaces, qui témoignaient pour Jacques Arnoux de l'affection la plus sincère. « Cela va toujours bien ?» fit-il en se tournant vers Frédéric. Et sans attendre sa réponse, il demanda bas à Hussonnet « Comment l'appelez-vous votre ami ?» Puis, tout haut, « Prenez donc un cigare sur le cartonnier dans la boîte. » L'art industriel, posé au point central de Paris, était un lieu de rendez-vous commode, un terrain neutre où les rivalités se coudoyaient familièrement. On y voyait, ce jour-là, en ténor brève, le portraitiste des rois. Jules Burieux, qui commençait à populariser par ses dessins les guerres d'Algérie. Le caricaturiste Sombaz, le sculpteur Vourda, d'autres encore, et aucun ne répondait aux préjugés de l'étudiant. Leur manière était simple, leurs propos libres. Le mystique Lavarias débita un conte obscène, et l'inventeur du paysage oriental, le fameux Dittmer, portait une camisole de tricot sous son gilet et prit l'omnibus pour s'en retourner. Il fut d'abord question d'une nommée Apollonie, un ancien modèle que Burieux prétendait avoir reconnu sur le boulevard, dans une Daumont. Hussonnet expliqua cette métamorphose par la série de ses entreteneurs. « Comme ce gaillard-là connaît les filles de Paris, » dit Arnoux. « Après vous, s'il en reste, sire, » répliqua le bohème, avec un salut militaire, pour imiter le grenadier aux Françagours d'un Napoléon. Puis on discuta quelques toiles, où la tête d'Apollonie avait servi. Les confrères absents furent critiqués. On s'étonnait du prix de leurs œuvres, et tous se plaignaient de ne point gagner suffisamment, lorsqu'entra un homme de taille moyenne, l'habit fermé par un seul bouton, les yeux vifs, l'air un peu fou. « Quel tas de bourgeois vous êtes !» dit-il. « Qu'est-ce que cela fait, miséricorde ?» Les vieux qui confectionnaient des chefs-d'œuvre ne s'inquiétaient pas du million. « Corrège, Murillo !»« Ajoutez Pellerin !» dit Sombaz. Mais sans relever l'épigramme, il continua de discourir avec tant de véhémence qu'Arnoux fut contraint de lui répéter deux fois « Ma femme a besoin de vous, jeudi, n'oubliez pas !» Cette parole ramena la pensée de Frédéric sur Madame Arnoux. Sans doute on pénétrait chez elle par le cabinet près du divan. Arnoux, pour prendre un mouchoir, venait de l'ouvrir. Frédéric avait aperçu dans le fond un lavabo, mais une sorte de grommellement sortit du coin de la cheminée. C'était le personnage qui lisait son journal dans le fauteuil. Il avait 5 pieds 9 pouces, les paupières un peu tombantes, la chevelure grise, l'air majestueux, et s'appelait Rogimbard. « Qu'est-ce donc, citoyen ? » dit Arnoux. « Encore une nouvelle canaillerie du gouvernement !» Il s'agissait de la destitution d'un maître d'école. Pellerin reprit son parallèle entre Michel-Ange et Shakespeare. Dittmer s'en allait. Arnoux le rattrapa pour lui mettre dans la main 2 billets de banque. Alors Hussonnet, croyant le moment favorable. « Vous ne pourriez pas m'avancer, mon cher patron. » Mais Arnoux s'était rassis et gourmandait un vieillard d'aspect sordide en lunettes bleues. « Ah, vous êtes joli, père Isaac. Voilà 3 œuvres décriées, perdues. Tout le monde se fiche de moi. On les connaît maintenant. Que voulez-vous que j'en fasse? Il faudra que je les envoie en Californie. Au diable, taisez-vous. » La spécialité de ce bonhomme consistait à mettre au bas de ses tableaux des signatures de maîtres anciens. Arnoux refusait de le payer. Il le congédia brutalement. Puis, changeant de manière, il salua un monsieur décoré, gourmé, avec favoris et cravate blanche. Le coude sur l'espagnolette de la fenêtre, il lui parla pendant longtemps d'un air mielleux. Enfin, il éclata. « Eh, je ne suis pas embarrassé d'avoir des courtiers, monsieur le comte. » Le gentilhomme s'étant résigné, Arnoux lui solda 25 louis, et dès qu'il fut dehors, sentit l'assommant ses grands seigneurs. « Tous des misérables !» murmura Rogimbard. À mesure que l'heure avançait, les occupations d'Arnoux redoublaient. Il classait des articles, décachetait des lettres, alignait des comptes. Au bruit du marteau dans le magasin, sortait pour surveiller les emballages, puis reprenait sa besogne. Et tout en faisant courir sa plume de fer sur le papier, il ripostait aux plaisanteries. Il devait dîner le soir chez son avocat et partait le lendemain pour la Belgique. Les autres causaient des choses du jour. le portrait de Cherubini, l'hémicycle des Beaux-Arts, l'exposition prochaine. Pèlerin déblatérait contre l'Institut. Les cancans, les discussions s'entrecroisaient. L'appartement, bas de plafond, était si rempli qu'on ne pouvait remuer. Et la lumière des bougies roses passait dans la fumée des cigares, comme des rayons de soleil dans la brume. La porte, près du divan, s'ouvrit, et une grande femme mince entra, avec des gestes brusques, qui faisaient sonner sur sa robe en taffetas noir toutes les breloques de sa montre. C'était la femme entrevue l'été dernier au Palais Royal. Quelques-uns, l'appelant par son nom, échangèrent avec elle des poignées de main. Hussonnet avait enfin arraché une cinquantaine de francs. La pendule sonna 7 heures. Tous se retirèrent. Arnoux dit à Pèlerin de rester et conduisit Mademoiselle Vatna dans le cabinet. Frédéric n'entendait pas leurs paroles. Il chuchotait. Cependant, la voix féminine s'éleva. « Depuis 6 mois que l'affaire est faite, j'attends toujours. » Il y eut un long silence. Mademoiselle Vatnaz reparut. Arnoux lui avait encore promis quelque chose. « Oh, oh, plus tard, nous verrons. » « Adieu, homme heureux, » dit-elle en s'en allant. Arnoux rentra vivement dans le cabinet, écrasa du cosmétique sur ses moustaches, haussa ses bretelles pour tendre ses sous-pieds, et tout en se lavant les mains, « Il me faudrait 2 dessus de porte, à 250 la pièce, genre bouché, est-ce convenu ?»« Soit, » dit l'artiste, devenu rouge. « Bon, et n'oubliez pas ma femme. » Frédéric accompagna Pèlerin jusqu'au haut du faubourg Poissonnière et lui demanda la permission de venir le voir quelquefois, faveur qui fut accordée gracieusement. Pèlerin lisait tous les ouvrages d'esthétique pour découvrir la véritable théorie du beau, convaincu, quand il l'aurait trouvé, de faire des chefs-d'œuvre. Il s'entourait de tous les auxiliaires imaginables, dessins, plâtres, modèles, gravures, et il cherchait, se rongeait. Il accusait le temps, ses nerfs, son atelier, sortait dans la rue pour rencontrer l'inspiration, tressaillait de l'avoir saisie, puis abandonnait son œuvre et en rêvait une autre qui devait être plus belle. Ainsi tourmenté par des convoitises de gloire et perdant ses jours en discussion, croyant à 1000 niaiseries, au système, aux critiques, à l'importance d'un règlement ou d'une réforme en matière d'art, il n'avait, à 50 ans, encore produit que des ébauches. Son orgueil robuste l'empêchait de subir aucun découragement. Mais il était toujours irrité, et dans cette exaltation à la fois factice et naturelle qui constitue les comédiens. On remarquait en entrant chez lui 2 grands tableaux, où les premiers tons, posés çà et là, faisait sur la toile blanche des taches de brun, de rouge et de bleu.